deux pas de chez toi.
Voir qu'on redonne des sourires, ça fait toujours plaisir.
Votre magazine de reportages, de témoignages, à la découverte de Reims, ses habitants, ses habitantes et de ses alentours.
Faire ce qu'on veut, quand on veut.
On rencontre des personnes différentes, très différentes les unes des autres. Et c'est génial aussi.
À deux pas de chez toi.
Pour qu'ensemble nous puissions créer un nouveau monde dans lequel les femmes sont plus solidaires, plus unies, pour créer un monde où règne l'amour, la solidarité, l'entraide.
Prenez le temps d'explorer ce qui se fait sur notre territoire avec Radio Primitive. Bonjour et bienvenue dans À deux pas de chez toi. Au programme de notre émission cette semaine, c'est l'heure du Sefstival. Une série de rendez-vous portée par les habitants du foyer de vie Sève l'Éveil à Reims et à Cormontreuil. Nous y avons emmené un micro, mais avant de nous y rendre, on se projette sur deux événements inédits à Reims. Les mercredis 25 et jeudi 26 mars à Reims, nous aurons la chance d'avoir deux rendez-vous consacrés aux thématiques de l'interaction humain-animal, de l'autisme, du handicap, de la médiation animale et des chiens. Pour vous en parler aujourd'hui sur Radio Primitive, nous avons reçu dans nos studios l'organisateur de ces événements.
Donc moi je suis Nicolas Dolion, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Reims. Et notamment, je suis chercheur en psychologie et en éthologie. Je ne sais pas si l'éthologie, ça te parle.
Non.
Donc l'éthologie, c'est l'étude qui s'intéresse au comportement animal et humain. Et donc de là, moi, je fais des recherches où je m'intéresse aux effets de l'interaction entre l'humain et l'animal.
Et là, je te reçois particulièrement parce qu'il y a plusieurs rendez-vous qui vont avoir lieu à Reims sur ces thématiques-là. Peut-être que tu peux nous expliquer, en dehors de ton activité de maître de conférence, qu'est-ce qui t'a donné envie aussi de proposer des rendez-vous au public, à des publics qui sont peut-être pas familiers avec les thématiques que tu abordes dans ton champ de recherche.
Alors, ce qui m'invite à essayer de proposer l'événement, c'est deux choses. C'est d'abord le fait que les animaux, ils sont vachement présents dans notre quotidien, si on y réfléchit. Il n'y a pas une journée sans qu'on en croise, des fois. Même si on n'est pas propriétaire d'animaux, on en croise dans notre quotidien. Et il y a aussi le fait que, non seulement on les côtoie, mais en plus, il y a pas mal de recherches qui nous montrent qu'ils ont des apports. Ça, on le constate, ça nous fait du bien, qu'on se sent mieux quand on est avec les animaux. Et ce que je souhaitais proposer, c'est de faire un point sur qu'est-ce qui se passe pour les personnes avec handicap. Est-ce que ces apports sont pareils? Est-ce qu'ils sont différents? Ou est-ce que ça apporte même plus pour ces personnes-là? Et ça, dans différents cas, parce que dans le champ du handicap, on a souvent moins d'informations quand on n'est pas personne concernée, ou même des fois quand on est personne concernée, sur des choses aussi spécifiques que l'interaction humain-animal et qu'est-ce que ça peut apporter.
Il y a souvent des visites d'écolieux, de fermes, donc ça vient dans ce sens-là, hein, j'imagine. Et puis moi, je suis souvent avec des seniors, et c'est vrai que pour rompre l'isolement, l'animal, c'est aussi une bonne technique, j'ai envie de dire. C'est une présence qui rassure, qui fait du lien social, ouais, entre les gens aussi. Là, on parle du rapport entre autisme et la connexion animale. Dans le champ de la recherche, c'est pas nouveau, tu disais, 2010, non. Autour de 2010, il y avait déjà des écrits à ce sujet.
Tu peux même remonter beaucoup plus tôt que ça, dans le champ de l'autisme. On peut remonter aux années 50, où on a un premier témoignage aux États-Unis d'une personne qui était à prendre en charge. Donc, il y a un psychologue qui prenait en charge un jeune autiste qui était non-verbal et qui, par hasard, se retrouve à avoir oublié qu'il avait son chien dans son cabinet. Et qui se retrouve, le jeune arrive, ah bah mince, le chien est là. Et il commence à voir que ce jeune commence à interagir avec le chien de manière très spontanée. Et ce jeune non-verbal a commencé à parler, alors qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent. Et donc, on est ici sur vraiment tout ce qui a ancré l'émulation sur faire des recherches et faire de la prise en charge au travers de la présence animalière pour les jeunes autistes.
Les interactions entre la santé mentale et les animaux. On continue d'en parler avec Nicolas Dolion, juste après Cheese Bad Girl du collectif Astéréotypie sur Radio Primitive.
On dirait que c'est des loups comme dans Tex Avery. Moi, je veux danser, m'amuser, et c'est pas pour être provocante. Et me revoilà toute magnifique. Cette jupe est juste assortie à la saison. Je ne veux pas perdre le goût de danser. Il faut se méfier des hommes qui draguent. J'affrontais la gourmandise pour exister davantage. Bad girl.
Primitive reçoit Nicolas Dolion, maître de conférence à l'université de Reims Champagne-Ardenne et spécialisé en psychologie du développement et éthologie. Il y a donc plusieurs rendez-vous les 25 et 26 mars à Reims que tu as organisé, des journées de réflexion autour de l'autisme et de l'interaction animale. Une présentation de la thématique, si je puis dire, le premier jour, c'est ça ?
Alors, le premier jour, c'est plus une conférence grand public pour tout un chacun, où là, on vous propose en fait de faire quelque chose qui est un peu plus large, de pas juste parler des apports dans l'autisme, mais aussi d'apports qu'on a pu recenser au niveau scientifique dans d'autres types de handicaps, où là on est sur des éléments un peu plus pionniers. Donc par exemple, tu parlais notamment des apports pour les aînés, ben on va parler des apports de l'intégration d'animaux au sein des EHPAD. On va parler des apports qui ont pu être démontrés scientifiquement pour les personnes qui sont épileptiques, à qui on remet un chien de détection des crises d'épilepsie. Et on va aussi vous parler de ce que ça peut donner de faire de la médiation animale en milieu scolaire et les apports que ça peut avoir justement sur les jeunes.
Donc là, présentation au sens large, tout public. Et le lendemain, ça va aller plus sur tes travaux de recherche à toi, si j'ai bien compris, puisque tu avais fait paraître un document, justement, qui parle du lien entre l'animal et l'enfant.
Alors, il va y avoir mes travaux de recherche. Alors, d'ailleurs, je ne dois pas dire « mais », je dois dire « non », parce qu'on est toute une équipe. On va parler notamment des recherches que je fais en collaboration avec le docteur Marine Grand-Georges, qui est elle, une chercheuse qui est plus éthologie et qui est à l'Université de Rennes, et aussi qu'on fait depuis pas mal d'années aux côtés de deux organismes. Le premier, qui est l'association Handi Chien, qui est une organisation à but non lucratif qui remet des chiens d'assistance de manière gratuite à tout public avec handicap et notamment aux enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Et son homologue, si je puis dire, au niveau québécois, qui est la Fondation Mira, qui remet là aussi des chiens d'assistance, notamment auprès des enfants autistes. Donc on va présenter ces travaux de recherche-là. On va aussi avoir une présentation de ce que sont ces chiens d'assistance. On va avoir des témoignages et des tables rondes avec des personnes concernées, donc des parents d'enfants autistes, et aussi une jeune femme autiste qui est bénéficiaire de chiens d'assistance. Et on va aussi enfin avoir, parce qu'il y a encore d'autres choses, des invités externes, donc avec Émilie Cap, qui est une chercheuse qui est basée à Paris-Cité, qui travaille sur le bien-être des familles d'enfants autistes, et John Tyler Binfett, qui est chercheur à l'Université de Colombie-Britannique au Canada, et qui est, lui, un chercheur qui est assez original, puisqu'il a monté sur son campus universitaire un programme où il y a un peu plus de 60 chiens thérapeutes sur le campus pour les étudiants et pour toute la communauté autour de l'université.
C'est génial, ça doit plaire en plus, ça doit fonctionner quoi.
Ah oui, on est sur un chercheur qui est très atypique, très pionnier dans ce qu'il fait. Et en effet, en plus, gros coup de chance, on a un collaborateur qui est de base anglophone, mais qui est parfaitement bilingue. Donc il va pouvoir parler en français pour ceux qui sont moins fluides en anglais.
J'allais demander si c'était accessible aux non-anglophones justement. L'objectif de ces deux rendez-vous, c'est visibiliser des pratiques, c'est quoi ?
T'as tout à fait pointé l'élément. Notre souhait, c'est de faire en sorte qu'on rende plus visible à la fois ce travail qui est fait par les organismes, mais aussi les apports que ça peut avoir pour les enfants autistes, de les faire connaître. Idéalement aussi de faire changer un peu les politiques au niveau public, puisque nombreux sont les personnes bénéficiaires de chiens d'assistance qui vont être victimes de ce qu'on appelle des refus d'accès. C'est-à-dire que le vigile à l'entrée du supermarché, souhaitant bien faire, bien entendu, va refuser l'accès à un chien, alors que c'est un chien d'assistance et c'est comme un fauteuil roulant. On ne vous demande pas de descendre de votre fauteuil pour rentrer dans le supermarché. On n'est pas censé vous demander de ne pas rentrer avec votre partenaire qu'on peut épingler comme étant celui qui vous aide à être fonctionnel et autonome dans votre quotidien, au même titre que tout autre outil comme un fauteuil. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de parler d'animal comme un outil, je m'en excuse, mais voilà, on ne dissocie pas, et ces problèmes de refus d'accès sont problématiques. On peut aussi être face à des établissements de différents types, même publics, où il y a ces refus d'accès. Et voilà, faire savoir et faire parler permet d'éveiller les consciences et de comprendre quelle est la fonction de ces chaînes d'assistance et d'éviter aussi, en fait, ces éléments. Et plus largement, ça permet de sensibiliser sur des éléments sur pourquoi, en fait, l'animal aurait tous ses apports et spécifiquement, par exemple, dans le cadre du handicap.
J'imagine que toutes les personnes ne sont pas au courant, comme on disait au début de nos échanges, qui peuvent avoir accès à peut-être un animal d'accompagnement. Donc, ne serait-ce que soulever cette possibilité, les obstacles, ils sont financiers.
Alors, quand on parle chaîne d'assistance, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler un obstacle financier, puisque pour le bénéficiaire, vous êtes face à un organisme, comme l'association Handi Chien, pour nous côté français, qui vous remet gratuitement ce chien d'assistance et qui va même vous former à avoir un quotidien avec ce chien-là. Bien entendu, l'association Andy Chien, c'est une association. Donc, elle dépend des donations qu'elle va pouvoir recevoir. Et donc, bien entendu, il va y avoir des limitations, eux, de leur côté, dans le nombre de chiens qu'ils peuvent délivrer annuellement, qui sont à la fois liées à des contraintes, on va dire, purement techniques, du fait qu'on travaille avec du vivant. Donc, on peut pas prédire on va réussir à avoir tant de naissances dans l'année, qu'on va réussir à en former et les amener en bout de ligne à avoir la formation nécessaire tant de manière précise. Mais il y a aussi une question de finance qui est assez importante. De l'autre côté, les freins qui font que tout le monde ne prend pas forcément une option de chien d'assistance, c'est le besoin. La question qu'il faut toujours se poser, et ça dans une vertu peut-être aussi de bien-être de tous, c'est est-ce qu'un chien d'assistance m'apportera plus que ne le ferait un chien de compagnie ? Et c'est vrai que dans ce cadre-là, dépendamment de votre quotidien, de vos besoins en termes d'autonomie, de vos besoins fonctionnels, votre besoin est peut-être plus satisfait par un chien de compagnie, et d'ailleurs ça peut être moins contraignant, que par un chien d'assistance. Inversement, des fois, c'est la réponse dont vous avez besoin parce que, par exemple, vous êtes un jeune autiste et aller dans les lieux publics, être entouré d'une densité de personnes, assailli par de multiples stimulations, là où vous êtes en situation d'hypersensorialité, ça peut être très compliqué. Et là, peut-être qu'un chien d'assistance va être la réponse qui vous accompagne.
On récapitule ces deux rendez-vous que tu as organisés, parce qu'il y en a un, c'est en plein centre, en plein centre-ville.
Ouais, le premier, c'est donc au stade de l'Aune, et il est donc le 25 mars de 18h30 à 20h30, avec donc une conférence grand public qui va durer environ une petite heure, quelques échanges avec le public, et en plus un petit cocktail ensuite, histoire d'avoir un instant convivial et qu'on puisse tous jaser les uns avec les autres. Et le lendemain, c'est donc le 26 mars, c'est le colloque scientifique qui, lui, va avoir lieu dans l'amphi-recherche du bâtiment 13 sur le campus Croix-Rouge et qui donc va se dérouler tout l'après-midi.
Si on veut poursuivre ces échanges, qu'on n'a pas l'occasion d'assister à ces deux rencontres, est-ce qu'il y aura un moyen d'avoir un résumé, une synthèse des échanges qui auront lieu ?
Alors, mieux qu'une synthèse ou un doc, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est une captation vidéo, notamment du colloque scientifique, et ça, dans l'objectif de pouvoir mettre en ligne par la suite, en libre accès, la vidéo pour que tout un chacun puisse bénéficier de ce colloque.
À deux pas de chez toi. Vous êtes toujours sur Radio Primitive et nous, on va sortir de nos studios pour vous emmener sur une des premières dates du Safestival. Chaque année, au mois de mars et avril, le foyer Sève l'éveil s'anime pendant plusieurs semaines pour le Safestival. Du 17 mars au 10 avril donc, des concerts et des animations s'enchaînent, le tout organisé par les résidents. Radio Primitive est allée sur place dans le jardin de l'association qui accueillait ce jour-là la fanfare Nicolas Artaud. Mais avant de parler fanfare, c'est Olivier, résident et bénévole très investi dans l'organisation du Safestival, qui vous explique tout sur cette nouvelle édition un peu spéciale.
Cette année, c'est une édition un peu particulière parce qu'on fête nos 15 ans de Safestival. Alors, c'est une aventure qui a commencé avec l'idée qu'il fallait que les gens du quartier voient autrement l'établissement dans lequel on est, parce qu'à la base on est un établissement médico-social, et l'idée c'était de sortir de cette image d'établissement médico-social. Et il y a 15 ans nous est venue l'idée du Safestival, et on a de la chance parce que ça fait 15 ans que ça tient. Des fois on se demande comment ça tient par un miracle dont on n'a toujours pas la totalité de la recette. Mais cette année c'est une édition un peu particulière parce que on a décidé de fêter nos 15 ans. Donc,
je crois que vous retracez d'ailleurs en images les 15 ans, non ?
Alors effectivement, il y a une exposition de photos qui est en cours de finalisation de montage, qui devrait être montée dans les prochains jours. Et oui, on est un peu en retard. Hein, l'idée, c'est à travers cette rétrospective, de se rappeler qu'on a pris 15 ans dans la face. Avec... Et puis de se souvenir de tous les artistes qu'on a réussi à inviter. Et d'ailleurs, certains de nos plus anciens reviennent cette année.
Ah ouais, pour l'occasion spécialement ?
Ouais, pour l'occasion, on a fait revenir certains de nos sociétaires qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et ils ont aussi 15 ans de plus.
Donc, est-ce qu'ils refont exactement la même chose qu'il y a 15 ans ou t'as demandé
que ça change un peu ? Alors, on sait qu'on va avoir des nouveautés. Ouais, globalement. Cette année, on a un programme qui allie à la fois les anciens tout au long de notre programmation des 15 ans et des petits nouveaux comme la fanfare d'aujourd'hui, dont c'est la première fois qu'ils viennent nous voir. Et on est assez contents parce que jusqu'à présent, pour accueillir des fanfares, il faut de la place. Ouais. Et jusqu'à présent, on avait un problème dans notre salle habituelle. Donc là, on a de la chance, il fait beau, on a de la place, on a de l'espace. Et du coup, ils vont pouvoir jouer fort et clair sans être embêtés par les problèmes de hauteur de plafond.
Tu disais que tu voulais faire voir le quartier et la structure autrement. Là, je vais te dire que tout le quartier va en profiter. Hein.
Ah ben, c'est le but. Justement, on s'est dit c'est l'occasion. En plus, si comme ça, on a quelques voisins qui viennent jusqu'à nous, c'est pas mal.
Eh ben ouais, carrément. Toujours des propositions, alors musicales, mais pas que. Hein.
Alors, il y a effectivement beaucoup de musique. Là, on a aussi cette année un mentaliste qui va venir nous voir. Si, un mentaliste. Et puis, on a pas mal de propositions autour du théâtre aussi qui sont là cette année. Donc oui, on essaie toujours d'avoir une programmation assez éclectique. Et on est toujours en partenariat étroit avec la cartonnerie qui nous fait aussi quelques propositions et qui nous propose un artiste tous les ans.
Et il va passer au Cabaret Vert. Vous allez voir avant qu'il aille au Cabaret Vert.
On a vu passer la programmation du Cabaret Vert et on s'est dit que... Donc voilà, on est plutôt contents.
Et puis attends, il y a une star aussi, il n'y a pas Silda.
Ah si, Silda. Ah ben Silda, c'était presque incontournable. On a quelques groupies, tu sais les...
T'es pas dans les groupies.
Ah non.
C'est celui qui dit qui y est, moi je dis. Hein. Je sais pas comment qu'on en est arrivé là, mais en fait c'est un peu avec des gens comme toi, Olivier.
Ben, disons qu'on a de la chance, on a de la chance d'être faire ça en équipe et j'ai la chance d'avoir une patronne qui tient la maison depuis 15 ans.
Ben, Olivier, ton rôle c'est toujours de présenter.
Tout à fait, je fais les introductions ouais c'est toutes les affiches aussi c'est moi. Ça fait aussi partie. De toutes les missions pour que ça puisse fonctionner, on a chacun en équipe des missions particulières. Ce qui fait quoi ? C'est vraiment un travail de groupe et on a de la chance d'avoir une patronne qui tient la maison quand même.
Alors les gens, tout le monde peut venir, on rappelle. Hein.
Oui, tout le monde peut venir, c'est ouvert, vraiment très très ouvert et on a beaucoup de programmation en après-midi cette année. On a pas, ce qui fait que vraiment c'est très. C'est très ouvert. Puis au-delà du concert, on a toujours notre moment de convivialité après chaque spectacle qui permet d'échanger avec les artistes.
Bien sûr. Et de boire un coup.
Et de boire un coup. Et
d'apprendre à se connaître.
Exactement, c'est aussi ça le but.
Il s'en passe des choses pour le CF Stival. Nous irons découvrir davantage la fanfare qui se préparait à se produire cet après-midi-là, juste après l'écoute d'un artiste qui va se produire sur le CF Stival le jeudi 26 mars prochain. C'est Thomas Schmal.
Il roule, elle roule derrière les placards. Il roule à deux entre trois sœurs. Les phares éclairent la lumière, le trottoir. Je me tais dans l'auto, même si le soleil est tard. Il y a de l'ennui sur toutes les lignes des oiseaux, des poteaux. Regarde les voitures, la distance entre deux, entre trois bandes. Les points blancs loin derrière, les couleurs dans la masse. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute. s'arrête sur l'air. Elle repose ses yeux verts, les mains sales, le corps gras, les vapeurs, la chaleur. On roule le jour sous la pluie, on s'ennuie. Le bruit de la goutte sur l'écran, c'est marrant. Tes oreilles sont sensibles à chacune de ses mouvements. On paye en nature au robot du péage. Il garde la monnaie, son sourire en échange. Je me tais dans l'auto, même si le ciel est tôt. Il y a sur le bord de la route du plastique à côté des pastèques en été sur les bancs bien fixés. On peut voir des sandwichs déchirés.
Radio Primitive, nous sommes de retour sur le Sève-Stival à l'association Sève l'Éveil, rue de la Bonne Femme, dans le quartier Wilson. Une série d'événements organisés par un collectif de résidents et qui accueillait cet après-midi-là la fanfare Nicole Artaud, créée en 2011.
Non, c'est pas nouveau. Moi, je suis rentré en 2016. Puis je ne suis jamais quitté la fanfare parce que je trouve que la fanfare c'est une bonne activité pour déjà pour s'amuser et s'éclater, mais aussi pour le moral, franchement ça fait du bien. Et puis en plus on a plein de morceaux à faire, on a plein de projets, là on a un concert qu'on donne ici à la Cervelle Ramos et je trouve ça formidable qu'on joue pour des personnes en situation de handicap et je trouve que voilà on peut. Voilà, puis j'espère que la fanfare continuera toujours. Bon. Pas pour très longtemps parce que le chef est un peu vieux, mais bon.
Hey, salut le chef qui est vieux.
Salut.
Il y a combien de personnes dans la fanfare en tout? Ça évolue.
Ça évolue, ça dépend des jours et on peut être des fois jusqu'à. On a été jusqu'à 28 personnes. 28, ouais, ouais.
Bon, en fait, j'allais commencer par les maracas. Après, il y a eu une petite dispute avec d'autres patients parce qu'ils voulaient mon maracas. Alors, je me suis dit, je vais changer d'instrument et j'ai choisi les congas. Et en fait, les congas, ça demande beaucoup de concentration. Je me dis que là, c'est la tête de Marcia et là, c'est la tête de Guillaume.
Alors, Marcia et Guillaume, ce sont les éducateurs qui accompagnaient ce projet de fanfare à Artaud.
Voilà, du coup, il y a combien de morceaux vous allez jouer?
Alors là, on va jouer. Ouais, c'est ça, on va jouer 4-5 morceaux, du coup. Et ce qui est quand même important de savoir, c'est que la fanfare, on a démarré en 2011 après les attaques quand même de Nicolas Sarkozy qui déclarait que tous les schizophrènes étaient dangereux et qu'il fallait beaucoup plus de vigile et de répression, en gros.
Qu'il allait se faire voir.
Pour les personnes.
Et on est sympa, en plus.
Pour les personnes en situation de handicap psychique et que quand même on a commencé plein de manifestations avec les patients et les soignants pour défendre une psychiatrie plus humaine et du coup on a vu comme ça des batucadas arriver dans ces manifestations et on s'est dit bah nous aussi on veut faire notre fanfare et notre batucada et ça a commencé comme ça.
Chapeau à la Fanfare d'Artaud, chapeau au Sefstival d'organiser pour la 15e année ce beau festival culturel. C'est gratuit, vous devriez vous y rendre. Ça se passe donc en majorité au foyer Sève l'Éveil 100 rue de la Bonne